Y'a des hauts, des bas, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
Émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Et les cadres sociaux. Y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne. Y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-sus, les sans-pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers. Y'a les infirmières et les gars du chantier. Y'a les oufs, les ouaves, les toqués-toqués. Malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Quand tout ça se passe ici-bas, où y'a des hauts, des bas, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Nous vous rappelons que cette émission est également diffusée sur Radio Larzac. Alors pour cette première émission de la rentrée, un peu tardive, certes, puisque nous n'avons pas fait d'émission au mois de septembre, nous allons aborder un sujet dont on parle énormément actuellement, qui est celui de la laïcité. Et pour cela, nous avons un invité, Pierre Tournemire, qui est vice-président de la Ligue de l'enseignement, vice-président national de la Ligue de l'enseignement, qui a beaucoup réfléchi à ces questions, qui a beaucoup travaillé, qui a notamment contribué au dictionnaire de la laïcité et qui a écrit un ouvrage sur l'histoire de la loi de 1905. Donc, une personne qui a toutes les compétences pour que nous débattions aujourd'hui de la laïcité. Alors, autour de la table, Guy Cabrit, Pierrette Mataran, qui sont des membres de la Ligue des droits de l'homme de Villefranche-de-Rouergue, de Casville. Bonjour Pierre, et merci d'avoir accepté notre invitation. Parce que nous avons la chance d'avoir à Villefranche quelqu'un qui a travaillé et qui a des compétences dans ce domaine. Alors la première question que j'aurais envie de te poser, c'est de dire, y a-t-il un problème de laïcité en France? Parce qu'on en parle beaucoup, partout, tout le monde en parle, tout le monde a sa définition, chacun, on a l'impression que chacun a sa définition de la laïcité. Alors y a-t-il vraiment un problème de laïcité?
Bonjour d'abord, merci de l'invitation. Alors, si j'en juge par les nombreux débats qu'il y a à l'heure actuelle, il y a incontestablement un problème de laïcité, puisque on voit bien que derrière ce mot, que tout le monde met en avant, mais comme tu viens de le souligner, on voit bien qu'immédiatement, il y a toute une série de sens différents. Donc, il semblerait que ce pays connaît des gros problèmes, qu'il y aurait aujourd'hui des manifestations, des revendications, des exigences qui mettraient en difficulté la laïcité. Si par contre je regarde sur la laïcité, sur ces deux piliers, qui est un cadre juridique pour permettre à chacun d'exprimer ses convictions dans le respect de l'ordre public, et le moyen de l'émancipation des personnes pour qu'elles soient en capacité de lutter contre toutes les formes d'asservissement. De ce point de vue-là, on peut dire que dans notre pays, la laïcité s'est largement installée et qu'elle est durablement, semble-t-il, le facteur qui permet ce fonctionnement. Le problème, c'est que, d'une part, on voit bien à travers le débat que les gens connaissent mal l'histoire, la philosophie, le cadre juridique même.
Mais justement, tout à l'heure, tu nous expliqueras en quelques mots.
Ça, c'est la première question. Et puis, le deuxième problème, c'est que ce cadre juridique, si effectivement, on pourra expliquer en quoi il consiste, mais s'il est à peu près installé, on voit bien que dès son application, il y a différentes façons de le faire. Parce que les questions laïques ne sont pas des questions simples. Elles exigent effectivement qu'elles soient examinées au cas par cas et qu'on trouve les solutions les plus appropriées en fonction des problèmes. Ce qui fait que ça nécessite effectivement un travail. Or, on aime toujours qu'il y ait des réponses simples, que voilà, c'est blanc, c'est noir. Or, ben, si on veut, pour le fonctionnement social, pour l'expression des convictions, des choses simples, ben, il faut aller en Corée du Nord, où là, effectivement, c'est simple. Si dans un pays démocratique, eh ben, il faut accepter que c'est pas simple. Et d'autre part, sur l'émancipation, et je terminerai par là pour la première question, sur l'émancipation, on voit bien que différentes aussi approches sont faites. Il y a ceux qui considèrent que c'est par la conviction, par l'application de la réflexion, et puis par donner les moyens aux gens, donc par vraiment essayer de convaincre pour que les voies de l'émancipation. D'autres pensent qu'il faut aller plus vite et que le mieux c'est de contraindre. Et dès qu'on veut contraindre, on se réfère effectivement à des dogmes, à des références qui permettent l'instrumentalisation largement du concept de laïcité.
Oui, alors justement, nous en parlerons tout à l'heure sur peut-être les bonnes attitudes pour réaliser un consensus sur ces concepts. Mais je crois que Guy Cabrit avait une question à poser. Là.
Oui, je voulais me poser cette question. Quand tu parles qu'il faut examiner au cas par cas, est-ce que tu veux dire la laïcité, donc elle est voulue en fonction... La laïcité aujourd'hui, c'est plus la même qu'en 1905. Les mœurs sont changées, l'évolution. Comment tu le vois, ça?
Alors, il y a je crois que c'est fondé pour ça qu'on soit au clair sur la définition de la laïcité. Il y a des principes qui, sur lesquels la laïcité repose, qui sont finalement assez simples et qu'on va pouvoir exprimer assez simplement. Et ces principes-là n'ont pas changé, mais ça remonte même avant 1905. C'est-à-dire que ce qui a fait le combat pour instaurer la laïcité, ces principes-là n'ont pas changé. Par contre, les modalités d'application de ces principes, bien sûr qu'ils évoluent avec le temps en fonction du contexte, en fonction des mentalités, en fonction de l'éducation, en fonction des rapports de force qu'il puisse y avoir. Et donc ça suppose, mais c'est le principe même de la justice, que d'examiner par rapport à un acte concret, qu'est-ce qui l'a motivé, quelles sont les raisons, quels sont les effets que ça a produit, quelles sont donc les conséquences. Et par conséquent, c'est bien au cas par cas qu'il faut examiner les situations. Ça n'est pas la même chose. Alors ça ne veut pas dire que les réponses soient au petit bonheur la chance en fonction des situations, pas du tout. Il faut se référer aux principes, mais essayer de trouver les réponses les plus appropriées pour permettre justement que soit à la fois respectée la liberté de conscience des individus et puis leur capacité de s'exprimer à la condition de ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales ou au respect de la dignité des personnes.
Ouais, je crois que Pierre, tu voulais intervenir.
Oui, tout à l'heure, tu parlais de la... Tu as utilisé le mot « contraindre ». Oui. Et donc, si on ne veut pas passer dans une action aussi directe de contrainte, quel serait le comportement laïque qui serait le plus facile à adopter? Est-ce qu'on peut avoir des exemples?
Oui, tout à fait. Je crois que faut bien voir quelle est l'histoire de la laïcité. Peut-être on peut commencer par ça. Parce que...
Peut-être, oui. Je crois que c'est important aussi de rappeler l'histoire, parce que est-ce que, justement, cette histoire est tellement connue? Est-ce qu'elle a été bien enseignée? Est-ce qu'elle a bien été transmise de génération en génération? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une faille, et c'est pour ça que toutes les possibilités d'instrumentalisation peuvent exister.
Oui, je crois que c'est important de prendre ce petit recul pour répondre à la question de Pierrette. La laïcité, ça vient pas de rien. C'est pas tombé du ciel comme par hasard. Ça se forge dans l'histoire humaine à partir du moment où les individus et les sociétés ont considéré que c'était aux hommes et aux femmes de s'approprier leur destin et donc de construire les raisons d'un vivre ensemble indépendamment de toute forme de transcendance, de vérité révélée, mais par la construction démocratique. Donc, on peut dire que les fondements, on les retrouve dès la Renaissance, à partir du moment où l'émancipation des personnes, l'autonomie de la personne par rapport justement à la croyance, a permis de ça. Et puis, l'élément décisif, c'est la Révolution française, qui définit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit, dans l'article 10, que nul ne peut être inquiété au nom de ses convictions, même religieuses. Et donc là, il y a une marque, etc. Mais il a fallu, parce que la restauration a marqué effectivement un retour en arrière par rapport justement à cette approche démocratique, il a fallu tous les combats du 19e siècle pour aller jusque, d'une part, à ce que l'éducation donne les premiers éléments de l'émancipation, mais aussi la loi de 1905 qui a donné le cadre juridique bien précis par rapport à ça. Et ce cadre juridique, il n'est pas venu de rien. C'est-à-dire que il s'est fait dans un contexte d'affrontement violent, parce que entre les partisans du troll et de l'autel pour maintenir les principes de la fille aînée de l'Église, bon, qui voulait en gros contraindre les comportements et dicter les façons de penser, donc une puissance de l'Église catholique de ce temps qui n'était sans partage, et puis les républicains qui souhaitaient justement que ce soit les principes de la Révolution, donc des principes des droits de l'homme et des citoyens qui s'appliquent. Donc ces affrontements violents qui étaient, on a du mal aujourd'hui à se rappeler ce que ça pouvait être. C'est-à-dire que on fermait par rapport à des revendications de congrégations qui mettaient en péril la République. Les réponses du gouvernement d'Émile Combes, c'était du berger à la bergère, c'était tout aussi violent en fermant des monastères, en interdisant des couvents, en fait, etc. Bref, dans ce contexte-là, les républicains, notamment avec Aristide Briand et Jean Jaurès, se rendre compte que, en continuant cette politique d'affrontement, on va dans le mur. Et c'est les principes même de laïcité et de république qui étaient en péril, comme la première république avait, dans sa volonté de déchristianiser le pays, avait été au bord de la guerre civile. Et donc, ils font, au lieu de renforcer les affrontements et de faire une loi de contrainte par rapport à l'Église catholique, ils font une loi de pacification qui va créer les conditions, justement, de la pacification durable. Ils font une loi juste et sage qui s'appuie sur quelques principes simples, qui sont le premier, c'est la liberté de conscience. La République assure la liberté de conscience. Le deuxième, c'est qu'elle garantit le libre exercice des cultes aux seules réserves de l'ordre public édicté par la loi. Donc on peut dire toutes les convictions, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, qui donc de croyances, de pratiquer, de pouvoir avoir une religion, de ne pas en avoir, de pouvoir en changer. Le premier principe. Le deuxième principe, c'est l'égalité des citoyens en droit, c'est-à-dire que nul ne doit être ni discriminé ni privilégié pour en fonction de ses convictions politiques ou religieuses. Et le troisième principe, c'est l'intérêt général qui doit présider la société. Donc il faut une séparation entre ce qui relève des convictions partisanes, qu'elles soient religieuses ou philosophiques, et ce qui relève de l'ordre public. Si on peut se résumer par rapport à ça, c'est quoi les trois principes sur lesquels repose la laïcité ? C'est la liberté, l'égalité, et puis la fraternité, parce qu'il ne peut pas y avoir justement un intérêt général qui n'obéisse pas à la fraternité. Et je pense que c'est bien ces principes-là qui doivent aujourd'hui être déclinés. Et donc, quand on regarde l'histoire sur des convictions, là j'aborde la question, sur des convictions, ben on ne peut rien faire, dire qu'il n'y a pas moyen de faire changer ce que les gens ont dans leur tête comme ça, par la force. L'expérience de l'Empire soviétique a bien montré que les dissidents finissent toujours par triompher, parce que ce qu'on a dans la tête, on l'a dans la tête, et donc il n'y a pas moyen d'agir dedans.
Et puis c'est donc un passé, c'est une histoire, c'est une construction, c'est une culture.
Donc on ne peut modifier ce que les gens ont dans la tête que par des arguments, par la conviction, donc par effectivement chercher à faire avancer, et ça suppose, bien sûr, un discours rationnel, un discours de principe, ça suppose aussi de l'empathie. Parce qu'on ne fait pas évoluer des personnes sur des convictions par des discours uniquement rationnels. Il faut aussi que les gens aient envie de faire des choses ensemble, envie de construire quelque chose. Et c'est cette empathie qui permet ensuite de se rendre compte que, oui, on peut évoluer. Et quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on voit bien que les choses ont évolué. Dire que l'Église catholique, qui en 1905 n'acceptait pas la loi de séparation des Églises d'État, et donc les cadres juridiques, l'a fait au bout du compte. Parce que le pari qu'avait fait Jean Jaurès à l'époque, c'était de dire que, à partir du moment où on donne la liberté à tous, et donc, y compris donc à l'Église catholique, qui était, ça n'est pas renforcer les moyens de l'Église de combattre la République, mais au contraire, ça permettrait son évolution de l'intérieur, et que ce seraient les catholiques eux-mêmes qui feraient évoluer l'Église pour qu'elle respecte les principes républicains et laïcité. Le pari était osé en 1905, il a largement été gagné dans l'histoire. C'est jamais définitif. On voit bien qu'il peut y avoir des reculs, etc. Mais je pense que par rapport à toutes les convictions, qu'elles soient religieuses ou autres, c'est le seul chemin. La contrainte, bien sûr qu'on peut contraindre des corps, on peut contraindre des comportements, mais des idées, il n'y a pas moyen de les contraindre par, sur la durée, ces idées, et il faut les, on peut ne les changer que par la conviction.
Oui, alors, mais ces grands principes que tu viens de décliner et qui éclaireront nos auditeurs, j'en suis certaine, ne sont-ils pas un peu oubliés? Ont-ils été suffisamment transmis? Parce que aujourd'hui, effectivement, si ces principes étaient vraiment connus, vraiment intégrés par tout le monde, avaient été enseignés, est-ce que on pourrait assister à cette instrumentalisation tous azimuts de la notion de laïcité, hein, qui va jusqu'à dire que ça s'applique à certaines religions et pas à d'autres, qui va dire que la laïcité c'est l'anti-religion, qui va dire que la laïcité c'est le laxisme le plus total, qu'au nom de la laïcité on accepte n'importe quoi, donc parce qu'on entend toutes les versions, il y a des dérives absolument incroyable. Alors, est-ce que, justement, il n'y a pas eu une faille dans la transmission? Parce que ce que tu nous dis là est totalement limpide, totalement compréhensible. Et je pense que ça peut faire consensus.
Le problème, c'est que tout débat comme ça qui touche des idées, des convictions, c'est aussi dans un contexte politique. Il y a que c'est toujours effectivement utilisé dans des rapports de force. Et le problème de la laïcité, c'est qu'effectivement, l'intelligence, la clairvoyance politique des parlementaires en 1905, c'est d'avoir fait de la laïcité d'abord un principe juridique qui définit un cadre dans lequel on peut vivre intelligemment ensemble. Et ce cadre juridique, aujourd'hui, effectivement, il s'applique grosso modo. Les trois principes que j'ai rappelés, ils existent. Bien. Le problème, c'est que pour certains aujourd'hui, alors oui, il faut quand même dire que ces principes, ce cadre juridique, se sont appuyés sur ce qui avait été fait par rapport à l'éducation. C'est-à-dire que c'est bien parce que l'école publique a formé des citoyens républicains que ces principes ont pu s'appliquer. Le problème, c'est que pendant tout un temps, l'Église catholique ne contestant pas progressivement s'attendant avec ses principes juridiques, dont le cadre politique était à peu près constitué, le débat s'est déplacé sur l'école et sur la vie sociale. C'est-à-dire que le débat portait entre l'école privée et l'école publique, entre des associations confessionnelles et des associations laïques, et le débat était un débat toujours idéologique, mais plus sur des cadres juridiques. Ce qui a modifié complètement les choses par rapport à ça, dans un pays qui était à 95% de religion catholique, les gens pouvant s'en éloigner, mais de formation, en gros, les grands principes étaient les mêmes. Ce qui change tout, c'est l'arrivée, effectivement, de l'islam dans notre pays, avec d'autres références, d'autres pratiques, d'autres traditions culturelles qui posent problème. Pourquoi? Parce que parallèlement à la laïcité, ce qui a fait évoluer le pays, c'est la sécularisation. La sécularisation, c'est pas la laïcité. C'est qu'un effet, un élément. C'est-à-dire que c'est la perte de pouvoir des religions sur la vie sociale, sur le cadre juridique, etc. Les gens peuvent être parfaitement croyants et de considérer qu'on n'est pas obligé d'ostensiblement le montrer. La difficulté, c'est que cette sécularisation était d'abord les récentes, dans notre pays, dire que quand on voit bien l'évolution des choses, c'est en gros après la fin des années 60. Mai 68 a été un élément un peu décisif. Après l'amélioration du pouvoir d'achat, après l'amélioration de l'éducation, des communications, de l'urbanisation, enfin tout ça fait que la sécularisation s'est progressivement imposée. Et les gens trouvaient ça plutôt bien. Donc aujourd'hui, les revendications religieuses, d'expression religieuse, de visibilité dans l'espace public, sont un petit peu irritantes pour les gens. Et c'est à ce moment-là que certains ont s'est dit, mais attendez, ce combat, c'est clair là, qui était en gros, qui séparait la gauche et la droite. On était pour l'école publique, on était de gauche, et on était pour l'école confessionnelle et de droite. Si jamais on le déplace, si la laïcité n'est plus d'abord un principe, mais c'est aussi une valeur, et si on met l'accent sur la valeur, rapidement, on peut se dire, mais attendez, c'est le moyen, effectivement, de dicter les comportements, de fixer les façons de vivre ensemble. Et puis, la voie est ouverte pour dire, mais attendez, notre tradition culturelle ne peut pas s'adapter. Il faut préserver l'identité française, qui serait forcément chrétienne. Et par conséquent, il faut lutter contre l'immigration, contre la religion musulmane, d'où vraiment un hold-up qui s'est opéré et que, sur laquelle l'extrême droite s'enfonce pour en faire une croisade contre les musulmans.
Merci Pierre sur cet exposé des principes. Nous allons prendre une petite pause musicale et ensuite nous poursuivrons notre entretien justement sur ces questions, notamment la place de l'islam, les problèmes ou les non-problèmes, la façon dont on pourrait résoudre cette question qui est pour les uns un gros problème, pour les autres un peu moins. Nous parlerons de cela tout à l'heure.
J'ai un problème d'intégration, un don certain pour l'imperfection. Un jour sur deux, une grosse tête de con. Et je contrôle pas toujours mes pulsions. Je suis pas un robot multifonction. J'ai pas de raison de me jeter du pont. Bébé, je suis pas un de tes héros de film d'action. Et on a pas forcément la même opinion. On a pas que des atomes crochus. J'étais plus puits, t'es plus ébloui. T'es si tu t'es dit quelle peine cul. On s'est perdu de but et t'es parti dans la rue. Puis on a rangé ça dans le tiroir de notre vécu. C'était pas Disneyland. Et puis c'est tant mieux quand c'est trop mielleux. Souvent c'est douteux, ça mène au foireux, à 30 fous furieux. Mais je suis pas blasé, j'aime encore ce jeu. Et je t'aime bien quand même et tu m'aimes bien quand même. Oh, je t'aime bien quand même et tu m'aimes bien quand même. Et je m'aime bien quand même et tu t'aimes bien quand même. Et tu t'aimes bien quand même et je m'aime bien quand même. Qu'est-ce qu'on s'aime quand même. Oh yeah, qu'est-ce qu'on s'aime quand même. Oh yeah, qu'est-ce qu'on s'aime. S'aime, 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 s'aime quand même. Vivre avec nos frustrations. On est tous dépendants du pognon. Il y a un grave problème de pollution. On peut le régler, mais non, non. Puis c'est pas tous les jours drôle comme facile à chanter. Ça donne envie de se barrer, de se battre ou bien de pleurer. J'ai du mal à respirer, vénère comme un nouveau-né. Pour m'exprimer, j'ai l'habitude de brailler. Ça me pose un problème de communication. À mes proches, un problème de compréhension. Ce qui nous mène à cette situation où l'on perd toute motivation. J'ai un problème d'intégration, peu de résistance à la pression. Et je demande aucune compassion pour mes problèmes de digestion. Et je t'aime bien quand même et tu m'aimes bien quand même. Oh, je t'aime bien quand même et tu m'aimes bien quand même. Et je m'aime bien quand même et tu t'aimes bien quand même. Et tu t'aimes bien quand même et je m'aime bien quand même. Qu'est-ce qu'on s'aime quand même. Oh yeah, qu'est-ce qu'on s'aime quand même. Oh yeah, qu'est-ce qu'on s'aime, 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 s'aime quand même.
Alors, tu as parlé, Pierre, de la sécularisation de la société française. Et est-ce que la question, nous avons également parlé de la question de l'islam. Alors, en quoi et est-ce que, justement, la présence de l'islam en France, la présence d'un nombre relativement important de nos concitoyens qui pratiquent cette religion, comme d'autres sont juifs ou d'autres sont catholiques, est-ce que ça vient remettre en cause cette sécularisation et comment on peut aborder aujourd'hui de façon objective, de façon rationnelle cette question de la place de l'islam, de la place de nos concitoyens dont la religion est l'islam dans notre société laïque.
Ben, pour régler la question, il suffit d'appliquer concrètement et correctement la loi de 1905. Parce que cette loi, qui était au départ une loi de circonstance, puisque dans le cadre d'affrontements avec l'Église catholique, avec les congrégations, les républicains ont été amenés à prendre des mesures qui ont choqué le pape et qui a entraîné la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Donc à partir de ce moment-là, le concordat qui présidait justement ces formes de relations ne tenait plus, puisqu'il n'y a pas de relations diplomatiques, donc il fallait trouver autre chose. Et Émile Combes, qui était un petit peu l'auteur de ça, a amené au Parlement une loi qui était une loi de contrainte de l'Église catholique. Et là, les parlementaires ont eu la clairvoyance, le génie politique, sous la pression de Briand, de Buisson, de Jaurès, de Pressensé, qui était le président de la Ligue des droits de l'homme, de se dire, non, c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Il faut, c'est pas une loi de circonstance qu'il faut faire, c'est une, donc, qui concerne l'Église catholique, c'est une loi qui concerne toutes les convictions, celles qui étaient présentes en 1905, mais par extension, toutes les convictions, et de ce point de vue-là, les principes s'adressent à tous, et de façon à ce que chacun soit garanti que ses convictions pourront être respectées à la condition qu'il ne veuille pas les imposer aux autres. Et donc, aujourd'hui, la présence de l'islam ne modifie pas du tout ces principes-là. Ce qui se trouve modifié, c'est effectivement des formes d'expression de la religion qui peuvent choquer, qui peuvent irriter. Bon, on voit aujourd'hui le grand débat laïque, c'est le port d'un foulard, et le seul fait de porter un foulard serait mettre en péril la République, la laïcité, etc. Bon, c'est une expression comme d'autres. La laïcité n'a pas à régenter les comportements, n'a pas à régenter les convictions, elle a simplement à faire en sorte que des principes soient respectés, qui fait que des expressions religieuses, c'est pas la même chose selon qu'on est dans la rue, selon qu'on est dans l'école, selon qu'on est dans des espaces publics, etc. Donc voilà, et c'est ces principes-là qui doivent être appliqués. Quant à la sécularisation sur laquelle, effectivement, on s'est largement habitué, et on peut aujourd'hui être choqué par toutes ces expressions. Mais, comme disait Gandhi, ça n'est pas parce que on soit obligé d'approuver des choses qu'on tolère. Hein. Donc on peut effectivement considérer que des comportements dans l'espace public sont irritables, sont choquants, et on doit pouvoir les combattre. Mais les combattre par la conviction, les combattre par le débat démocratique, pas par l'interdiction si ça n'enfreint pas les lois. Et je pense que si aujourd'hui on était plus respectueux de ça, c'est-à-dire si on comprenait qu'il y a des expressions, et qu'à partir du moment où elles ne mettent pas en péril les principes, on peut les accepter, même si on peut aussi les combattre démocratiquement, ça arrive. Et puis je crois, mais ça peut être qu'il faudrait insister plus longuement, on pourrait revenir à des questions, c'est que c'est dans un contexte où si on veut que les gens aient les mêmes devoirs, il faut qu'ils aient les mêmes droits. Et ça suppose que la situation sociale, effectivement, soit traitée. Jaurès disait fort justement dès 1904 que la République doit être laïque et sociale. Elle ne restera laïque que si elle s'est restée sociale. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est un débat. Bien sûr, ça ne règle pas tout. Mais je crois que si on ne prend pas ça en compte, on ne peut pas demander à des gens de respecter les devoirs de chacun s'ils n'ont pas les mêmes droits. Alors voilà. Donc il faut, et or, je crois qu'il faudra qu'on enfile un petit peu cette question parce que ça me paraît tout à fait essentiel.
Oui, tout à fait. Mais par rapport justement aux manifestations des convictions religieuses, que ce soit par le foulard, que ce soit sous d'autres formes, on a le sentiment qu'un certain nombre de nos concitoyens, et puis un certain nombre de forces politiques qui instrumentalisent cela, bien entendu, à leur profit, donnent l'impression qu'on va nous imposer tel ou tel mode de vie, tel ou tel comportement. Justement, c'est là que peut-être qu'on peut revenir à cette notion de sécularisation. Et puis,
c'est le débat démocratique.
C'est le débat démocratique. Et puis, je pense qu'il faut aussi aborder la question de la neutralité, parce que on parle beaucoup de neutralité. La neutralité, c'est pas une fin en soi. C'est certainement un outil, enfin la condition pour que ben, chacun puisse s'exprimer librement et que quelque religion que ce soit n'impose pas ses points de vue aux politiques, aux décisions qui concernent l'ensemble des citoyens. Je crois que c'est ça, cette liberté, elle est aussi dans le sens où ben, il faut faire en sorte que chacun puisse vivre librement ses convictions, mais sans l'imposer aux autres. Alors là, c'est peut-être un peu compliqué parfois, mais N'y est-on pas quand même pas mal arrivé en France ?
C'est pas compliqué si on est précis et si on est rigoureux. La neutralité, ça vient pas de rien. C'est-à-dire que c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les principes, il y a la préservation de l'intérêt général. Donc, nulle conviction ne doit s'imposer à d'autres si on veut pas les partager, que l'État doit garantir la neutralité. Mais la neutralité, ça ne veut pas dire qu'il méconnaît. Quand le deuxième article de la loi de 1905 dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte », ça ne veut pas dire qu'il les méconnaît. L'État est garant de l'ordre public. Donc, il doit les connaître tous, mais n'en privilégier aucun. Donc, ça suppose que l'État, la République, les fonctionnaires, ceux qui sont agents d'intérêt général, soient dans un comportement qui n'induise pas qu'ils influencent et qu'ils privilégient ou qu'ils discriminent tel ou tel citoyen. Mais cette neutralité, elle s'applique à l'État et aux services publics. Elle s'applique pas aux citoyens. Jaurès disait le néant est neutre. Donc, c'est bien neutralité par rapport à des convictions religieuses, des convictions philosophiques. Pas par rapport à des grands principes, pas par rapport aux valeurs de la République. Et donc les citoyens ont bien le droit de pouvoir exprimer ce qu'ils entendent, de combattre éventuellement des choses. On dit que on a le droit dans ce pays, c'est la force de la République, qu'on a le droit de ne pas être républicain. Simplement, il faut respecter les lois de la République. Et donc c'est le débat démocratique qui fait que nul ne peut imposer une loi qui n'a pas été démocratiquement adoptée par le peuple. On peut les remettre en cause, mais tant qu'elles sont pas remises en cause, elles doivent être appliquées par tous et pour tous.
Oui, moi je voulais revenir sur la neutralité, parce que est-ce que ce concept de neutralité n'est pas remis en question lorsque l'État veut s'occuper d'organiser la religion, d'organiser l'islam de France, par exemple ? Qu'est-ce que tu en penses là, par rapport à ça ?
Alors, la loi de 1905 est très précise par rapport à ça, c'est-à-dire que autant les religions ne peuvent pas dicter la loi à la République, autant la République n'a pas à dicter le fonctionnement des religions. L'article 4 de la loi de 1905 explique que les religions, enfin les convictions peuvent s'organiser comme elles l'entendent en fonction de leur pratique, de leur tradition de fonctionnement. Donc les églises, quelles qu'elles soient, et toutes les religions peuvent s'organiser comme elles l'entendent. La difficulté qu'il y a dans ce pays, c'est que l'islam, qui est effectivement une pratique pour, alors on ne sait jamais, puisque suivant les enquêtes, on dit 3, 4, 5 millions, mais enfin, en tout cas, il y a un nombre non négligeable de gens qui sont de culture, de tradition, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que pour autant ils soient des pratiquants. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ne pratiquent pas la religion, et puis il peut y avoir aussi parmi les musulmans des gens qui ne sont pas du tout croyants. Bon, mais par contre, il y a des traditions. Bon, et dans ce contexte-là, puisque l'État est garant de l'ordre public, il faut bien arriver à trouver une interlocution avec des représentants pour pouvoir discuter de tel ou tel problème qui sont justement de nature à troubler l'ordre public ou en tout cas à perturber un petit peu le fonctionnement. Et la difficulté, c'est que pour les musulmans, il y a différentes traditions, ce qui est aussi le cas pour d'autres religions, mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'interlocution qui soit à peu près identifiée. Et chaque fois, il y a une tentation, parce que dans ce pays, il y a quand même une tradition qui remonte très très loin, dès le Moyen-Âge, on appelle ça le gallicanisme, qui est en gros que de considérer que le roi, mais on peut dire pareil pour l'État, il doit protéger et en même temps contrôler une religion. Et donc voilà, il y a toute cette tradition qu'il faut fixer des lois qui va permettre que les religions s'expriment que dans le cadre que l'État voudrait bien qu'ils s'expriment. Et la tentation, elle est forte effectivement d'organiser. Donc ce qu'a fait Nicolas Sarkozy suite à ce qu'avait déjà fait d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement de créer un peu artificiellement un conseil du culte français musulman, effectivement dans des conditions où ils se sont organisés certes entre eux. Mais dans un contexte où ils étaient enfermés dans un château, et puis ils ne pouvaient pas en sortir tant qu'ils n'auraient pas, en gros, accepté ce que le gouvernement de Sarkozy souhaitait, enfin, ou le ministre intérieur à ce moment-là. C'est une forme, effectivement, qui s'apparente plus au gallicanisme qu'à la laïcité. Mais bon, ça permet aussi d'avoir des gens qui peuvent s'exprimer. Je crois que le problème, c'est qu'il faut que se créent progressivement les conditions que les musulmans eux-mêmes s'organisent et puis trouvent leurs représentants dans des formes qui leur appartiennent. Et ça prendra sûrement un peu de temps. ça s'est passé de façon un peu musclée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les Juifs, puisque Napoléon a organisé pour ça le Sanhédrin, qui fait que les Juifs ont eu à se mettre d'accord pour respecter ce que Napoléon voulait. Je crois qu'aujourd'hui, on ne pourra pas faire la même chose, parce que la démocratie, elle a quand même évolué. Par conséquent, c'est pas la bonne voie. Mais c'est quand même très important que les musulmans s'organisent pour qu'il puisse y avoir, dans le débat démocratique, qu'est-ce qui aujourd'hui relève de leur obligation, de leur prescription religieuse, et ce qui relève effectivement de traditions culturelles. Et si ces traditions culturelles sont plus ou moins irritantes pour une société, qu'on puisse s'en accommoder dans les définitions qui soient respectées. Respectable pour tous.
Oui, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire. C'est important que les musulmans s'organisent. Et il y a même des musulmans laïcs comme nous. Et, ils sont assez nombreux. Et,
mais on peut être musulman, pratiquant et laïque.
Et bien sûr.
Comment on peut être catholique,
sûr.
Pratiquant, croyant fortement et laïque.
Et laïque,
voilà,
c'est très important.
C'est pas la religion de ceux qui n'en ont pas.
Voilà, la laïcité n'est pas la religion de ceux qui n'en ont pas, effectivement.
Voilà, absolument.
Et je veux dire que, voilà, moi, ce qu'on vient de dire par rapport à la loi 1905, ce qui me gêne un peu, c'est que l'État veuille organiser ça, quoi. Et ce qui est compliqué, on est sur une frontière où là, c'est compliqué par rapport aux lois de la laïcité. De même, et je voulais continuer ma question parce que, il y a l'histoire des départements aussi que j'aimerais qu'on parle, là, de l'Alsace et la Lorraine, qui sont toujours en concordat, Pierre.
Oui.
Donc on a toujours une laïcité un peu élastique, enfin, dans la loi. Comment tu l'expliques, tout ça?
Encore une fois, c'est l'histoire qui explique les choses. Oui. Alors, par rapport au territoire, il y a deux problèmes. Il y a l'Alsace et la Moselle, qui étaient des départements qui étaient à l'époque allemands, quand la loi a été votée. Et l'extension des lois laïques n'a jamais été opérée dans ces départements. Donc ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, c'est aussi lié à l'époque de la colonisation, où toute une série de territoires étaient pas des départements, considérés comme des colonies, et la loi de 1905 ne s'applique pas directement à eux. Il fallait des décrets particuliers qui fait qu'ils restent encore aussi bien en Guyane qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, que dans la Nouvelle-Calédonie. Il reste des choses qui ne sont pas conformes à la loi de 1905. Et puis, il y avait l'Algérie, où c'était trois départements français, et qui normalement auraient dû appliquer la loi de 1905, mais la loi précisait que pour l'Algérie, c'est le gouverneur qui prendrait les mesures. Et le gouverneur, il a plutôt cédé au lobbying des colons que à la loi de 1905. Alors que les députés et les sénateurs avaient voté la loi, elle ne s'est jamais appliquée en Algérie, contrairement à ce que d'ailleurs les oulémas, les responsables religieux souhaitaient. C'est un des problèmes qui fait que si la laïcité s'était appliquée du temps de la colonisation, enfin du temps de l'Algérie française, peut-être qu'on aurait pu faire ce qui a été fait en France, la métropolitaine, la distinction entre ce qui relevait du cultuel et du culturel. Et que peut-être qu'aujourd'hui, on aurait moins de difficultés. Mais ça, bon, c'est l'histoire. Sur l'Alsace et la Moselle, ça nécessiterait une émission tout à fait particulière. Le problème est compliqué dans la mesure où, en 70, beaucoup de républicains ont quitté ces départements pour ne pas devenir allemands. Et il se trouve que c'est l'Église catholique qui a, pour deux raisons. D'abord parce que, justement, elle revenait un peu installée. Et puis, pour éviter l'influence des protestants avec l'Empire prussien. C'est l'Église catholique qui, en gros, a maintenu le patriotisme, l'esprit français, qui fait que en 1918, ça n'a pas été possible de leur appliquer. Le gouvernement d'Édouard Herriot a cherché à appliquer, il y a eu des manifestations qui ont fait d'ailleurs beaucoup de dégâts et qui a amené le Conseil d'État à l'époque à considérer que c'était pas incompatible avec les lois de la République. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel récemment vient de confirmer ça en disant que c'était provisoire, puisque il y a toujours une loi qui doit définir les choses, que ça ne pouvait pas être étendu, c'était pas extensible. Il y a quand même des mesures qui pourraient être prises. On espère toujours qu'il y en a une en particulier qui devrait l'être immédiatement. C'est de ne pas contraindre les gens à avoir un cours de religion dans les horaires scolaires dans ces départements. Et que ceux qui voudraient avoir un cours de religion puissent l'avoir.
Donc, ça a un peu évolué quand même.
C'est pas encore réglé.
C'est pas encore réglé, mais ça a un peu évolué.
On avait beaucoup espéré que la visite du président de la République au congrès de la Ligue d'enseignement qui avait lieu à Strasbourg ferait évoluer les choses. il a laissé, enfin il a été un petit peu nébuleux sur la question, laissant un peu la ministre être un peu plus précise. Il y a une mission qui vient de confirmer, mais il y a toujours l'obligation du cours de religion, et que pour ne pas le suivre, il faut demander une dérogation.
Voilà,
suivant les endroits, c'est plus ou moins appliqué de façon... qu'il faut, il y a des délais, enfin bon... On demande que ce soit inversé et que ceux qui veulent avoir un cours de religion l'aient. Et que ce cours de religion n'ait pas lieu dans le temps scolaire. Il n'y a pas de raison, parce qu'actuellement c'est le cas. Donc ce qui fait que les Alsaciens et les Mosellans ont en gros une heure d'enseignement de moins. Donc voilà, une cour de religion, oui, mais pour ceux qui le veulent, et en dehors du temps scolaire.
Tout à fait. Alors, pour en terminer, sur la question de la neutralité, bon, on voit qu'il y a des débordements à ce niveau-là. Par exemple, récemment, le conseil municipal d'Aix-en-Provence vote une délibération qui vote une charte de la laïcité, appelée charte de la laïcité, qui vise à être signée par toute association qui va bénéficier de subventions ou peut-être même à qui on va donner un local. Est-ce que là, on n'est pas en pleine... Tout simplement pour que, eh bien, ils appliquent le principe de neutralité. Alors, est-ce que là, il n'y a pas une dérive totale et une instrumentalisation totale, un dévoiement de ce qu'est la laïcité ?
Bien sûr que si, puisque si la neutralité, c'est l'interdiction d'un débat dans l'espace public, c'est la fin de la démocratie. La neutralité, c'est quoi ? Ou c'est triste à mourir ? De quoi on parlerait si on peut pas parler de choses différentes ? Ou c'est un enfer totalitaire, c'est-à-dire que seule une expression serait autorisée. Donc, naturellement, la neutralité, elle s'applique à l'État, aux services publics, donc aux fonctionnaires, mais on va pas neutraliser les citoyens, parce que sinon ce serait neutraliser la démocratie. Par contre, qu'effectivement les pouvoirs publics s'assurent que à partir du moment où il y a des subventions, à partir du moment où il y a une intervention, etc., qu'il y ait des garanties qui soient respectées par rapport justement à la loi fondamentale, par rapport à la dignité des personnes, ça oui, c'est l'objet. C'est-à-dire que depuis longtemps, il y a un agrément jeunesse et sport qui permet à des associations, y compris confessionnelles, de bénéficier de subventions, mais qu'elles doivent le faire dans des conditions que où l'intérêt général est préservé. Donc ça, c'est possible, mais je crois que la tentation aujourd'hui de neutraliser l'espace public, sous prétexte en gros de contraindre la religion musulmane, puisque beaucoup, certaines parties d'extrême droite sont contre les prières dans la rue quand c'est à côté d'une mosquée, mais pas à côté de l'église Sainte Rita, donc qui fait que ça provoquera toute une série de dégâts collatéraux, puisque pour contraindre la religion musulmane dans un pays qui considère que la neutralité et donc le fait de ne pas privilégier ou discriminer telle ou telle option religieuse ou philosophique va poser toute une série de problèmes, puisque ce qui serait applicable aux musulmans devrait être appliqué à toutes les autres religions.
Voilà. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons vous offrir une petite pause musicale.
Des pronoms et sérénité. Tu choisis ni ta langue ni ta nationalité. Reste en maître de nos valeurs, de nos vérités. Par nos chemins, tu sais à vous on vient s'adresser. On n'attend pas d'être au mic pour l'unité pratiquée. Tous les jours de l'année, nous bougeons pour nos idées. Mélangez-vous, unissez, métissez-vous. Tu as autant à prendre de nous que nous de vous.
Coloring, colorant. Así son los hombres, son las mujeres. Coloring, colorant. Même pas les colores. Color
colorín.
Así son los hombres, así la mujer. El fuego no se mezcla con aire o se muere. El viento siembra semillas en los corazones. El mar se hace puma y el río corre. Y no hay quien lo pare.
Colorín.
Ven pa' acá, mamita, tumbate a mi lado. A mí no me importa lo que dice el morado. Ellos son brazón, no dan dolor. Prefiero esta cosita que tiene tu interior. Mezclemos la ruta, borremos la pista. Nuestra sangre contará toda la historia. Un camino doble, una doble herencia. Una doble memoria. ¡Hey, hey!
Défendant les dents, tu déprenons ici l'unité. Tu choisis ni ta langue ni ta nationalité. Restons maîtres de nos valeurs, de nos vérités. Par nos chemins, tu sais à vous on vient s'adresser. On n'attend pas d'être maître pour l'unité pratiquée. Tous les jours de l'année, nous bougeons pour nos idées. Mélangez-vous, unissez, métissez-vous. Tu vas autant apprendre de nous que nous de vous.
C'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Vous venez de nous rejoindre. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Et aujourd'hui, nous abordons la question importante de la laïcité avec notre invité, Pierre Tournemire, qui est vice-président de la Ligue de l'enseignement et qui a beaucoup travaillé sur ces questions de laïcité. Alors, Pierre, la laïcité, parfois... on entend dire et on dit et on affirme que notre modèle laïque est notre modèle laïque français est unique au monde. Alors qu'en est-il ?
Alors effectivement, on souligne souvent que la laïcité ne serait pas traduisible, que ce serait une exception française et qu'il faudrait absolument la préserver. Donc ce serait à la fois un petit peu arrogant sur le seul modèle qui devrait s'appliquer au monde et en même temps un petit peu avec une mentalité d'assiégé, c'est-à-dire que le monde entier nous voudrait. Or quand on regarde les choses, la France n'est pas unique, elle est même pas à l'origine des choses. C'est-à-dire que la laïcité, il faut bien voir qu'elle s'est constituée essentiellement en termes de concept autour du 19e siècle, dans, en gros, tous les pays qui à forte domination catholique. C'était par rapport à une église ultramontaine qui était aux ordres du Vatican, qui combattait à l'époque tout ce qui allait dans le sens du progrès, des libertés, etc. Et donc, en réaction, des gens ont mis en avant le libre examen. C'est-à-dire qu'il appartenait aux hommes, non pas de se référer à Dieu pour définir leur comportement, mais à eux-mêmes et aux autres par la construction de leur destin partagé. Et c'était valable donc en France, c'était valable en Belgique, c'était valable en Italie, c'était valable en Espagne, c'était valable au Portugal, c'était valable au Mexique. Et ces pays, le Mexique en particulier, a fait la séparation de l'Église de l'État 50 ans avant nous. En Belgique, les Belges avaient toute une série d'organisations, que ce soit au niveau de la franc-maçonnerie, que ce soit au niveau de la libre-pensée, que ce soit au niveau de la Ligue de l'enseignement, étaient en avance sur nous. La modification, et les Français étaient effectivement dans un combat essentiellement contre l'Église catholique, contre les prétentions, non pas contre la religion, mais contre le cléricalisme, c'est-à-dire les prétentions d'une Église de dicter au nom d'une transcendance des comportements sociaux et des libertés de pensée. Et donc ce combat-là était partagé. La différence fondamentale, c'est que en France, contrairement à la Belgique, contrairement à l'Espagne, contrairement à l'Italie, contrairement au Portugal, les républicains ont gagné durablement le pouvoir. Et en gagnant durablement le pouvoir, ils ont fait une laïcité pour tous, parce que acceptable par chacun. Et donc ça a été l'objet effectivement des lois scolaires qui ont permis la formation des citoyens, et la loi de 1905, qui est une loi qui peut être appliquée à tous, puisqu'elle permet l'expression de toutes les convictions dans le respect de l'ordre public.
Oui, je crois, Pierrette, tu avais une question.
Tu disais tout à l'heure que Jean Jaurès avançait la notion, que la notion double de la République, sociale et laïque. Est-ce qu'on peut se demander maintenant si cette notion est toujours valable, étant donné que, comme tu l'as rappelé aussi, que les problèmes sociaux étaient liés aussi à ce sujet fort difficile, notamment au niveau de l'islam en France. Et donc, est-ce que maintenant, la laïcité et l'aspect social sont toujours compatibles ?
Alors absolument. Et le problème, c'est qu'il faut mener les deux actions de front. Je parlais tout à l'heure des inégalités. Je prends qu'un exemple que Jean-Paul Delahaye a admirablement représenté dans ses interventions au début du mois dans ce département. Jean-Paul Delahaye est un inspecteur général de l'éducation nationale qui a travaillé sur la grande pauvreté liée à l'esprit. Quand il explique qu'un élève sur dix, vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire que dans un foyer qui vit avec 650 euros par, moins de 650 euros par mois, comment voulez-vous que cet élève, 1 sur 10, ait les mêmes conditions d'accès à l'éducation que les autres? C'est-à-dire que, bon, quand on n'a pas un lieu pour travailler, quand on a toutes les séries d'handicaps, etc. Et donc, à cet élève, si on lui explique que la République est libre, égale et fraternelle, au bout d'un moment, il a tendance à considérer que cette République, elle lui manque. Et je crois que ce qu'il faut bien qu'on montre, c'est que cette République n'a jamais été libre, égale et fraternelle. Simplement, ce que les républicains affirmaient, c'est que pour qu'elle soit authentiquement républicaine, il fallait rendre progressivement ses valeurs vraies. Et donc, pour ça, il fallait des luttes. Et je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire d'expliquer que, oui, bien sûr, il faut une justice sociale. S'il n'y a pas de justice sociale, il ne peut pas y avoir un fonctionnement harmonieux de société. Mais que ça, ce n'est pas octroyé. Ça se décrète pas comme ça. Ça nécessite effectivement des engagements de citoyens, ça nécessite des engagements politiques, des engagements sociaux, pour faire en sorte que progressivement on se rapproche. Et si on ne fait pas ça, eh bien effectivement la laïcité sera particulièrement menacée, mais la démocratie aussi, parce que des gens qui n'ont pas les mêmes droits ne peuvent pas avoir les mêmes devoirs.
Oui, alors justement, moi je voudrais revenir sur une notion qui est la fameuse notion d'accommodement raisonnable. Donc il y a deux visions aussi de l'application de la laïcité, du principe laïque. En France, il y a ceux qui disent il faut absolument contraindre, il faut... Et puis d'autres qui disent que bon ben justement il faut créer un consensus, il faut rester peut-être dans la logique de la loi 1905 qui est pas une loi de contrainte, qui est plutôt une loi de liberté, une loi d'apaisement. Et effectivement les deux camps s'affrontent, le camp qui voudrait que on applique la laïcité de façon pure et dure immédiatement. Accuse les autres d'être trop laxistes et de pratiquer ce qu'il est convenu d'appeler des accommodements raisonnables. Alors Pierre, ces accommodements raisonnables, de quoi parle-t-on ?
Alors, d'abord, écartons un faux débat. Les accommodements raisonnables, c'est l'expression, elle appartient au Québec et effectivement dans un contexte où on donne des droits particuliers à des communautés, c'est ça. Bon, ça c'est tout à fait contraire à notre tradition laïque française. Il n'est pas question de tomber dans... Autant la République doit reconnaître le pluriculturel. Les gens sont... Effectivement, il y a une diversité culturelle. Cette diversité culturelle ne doit absolument pas entraîner le communautarisme ou le multiculturalisme qui donne des droits particuliers à des communautés. Donc, il n'est pas question en France d'appliquer les accommodements raisonnables québécois. Par contre, les accommodements... Alors, appelons-le comme on veut. Mais c'est la tradition de la laïcité. Si la laïcité s'est progressivement imposée dans ce pays, c'est bien parce que la République a appliqué intelligemment une fermeté sur des principes et puis une application, un pragmatisme intelligent pour que ces principes deviennent vrais dans la réalité. Je vais prendre que deux ou trois exemples. Sur l'école... en 1886, la République décide que les enseignants devront être des laïcs, entre guillemets, des laïcs avec un C, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être ni prêtres ni religieux. Bien. Ils décident que pendant 5 ans, ça sera applicable au bout de 5 ans pour les hommes, et quand il n'y aura plus de religieuses qui enseigneront dans l'enseignement public, parce qu'elles seront à la retraite. Ce qui fait que ça a mis près de 30 ans pour que ça s'applique aux religieuses. Et l'école publique, parce qu'il n'y avait pas souvent suffisamment d'institutrices formées parce que les écoles normales de filles n'existaient pas, existaient juste à ce moment-là. Donc, cet accommodement-là, y compris par rapport aux signes religieux dans les écoles, l'enlèvement des crucifix dans les salles de classe, ça a pris du temps. Parce que les gens ont considéré qu'il fallait qu'on puisse convaincre les personnes. Et sur les processions, sur tout ça, donc je crois qu'on ne peut gagner sur des idées fondamentales que si on prend le temps de comprendre un petit peu les situations et les revendications des gens. Mais comprendre, ça ne veut pas dire accepter bêtement. C'est comprendre comment on va pouvoir faire évoluer ça dans le bon sens. Et ça suppose beaucoup d'argumentation.
Voilà. Alors justement, tu parles de comprendre. Moi, je vais te parler aussi de transmettre. Aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, nous sommes au terme de cette émission, de cette discussion. Par rapport à tout ce que nous venons de dire, aujourd'hui, qu'en faut-il faire justement pour que on se mette d'accord, qu'on parle des mêmes choses, que cette notion de laïcité soit perçue comme elle doit l'être et non perçue avec des connotations diverses et variées, que les uns ne traitent pas les autres de traîtres, comment faire passer, comment transmettre toutes ces notions de laïcité bien comprises.
Alors, d'abord, la laïcité,
c'est un vaste sujet.
C'est effectivement une éthique du débat, et donc il n'y a pas ceux qui seraient des gardiens du temple, qui auraient le droit de dire ce qu'est exactement la laïcité, qui s'imposerait à d'autres. Donc, ça nécessite effectivement, sur des principes qui doivent effectivement être largement partagés, mais les modalités d'application doivent pouvoir être discutées. Alors après, je répondais par une boutade, c'est de dire que, pour répondre à ton souhait, parlons moins de laïcité, et faisons-la davantage vivre au quotidien. Et je pense que c'est comme ça que on répondra positivement à ta question. Parce que quand on regarde l'histoire du XXe siècle, certes, il a fallu effectivement qu'il y ait des prises de position fermes, que l'école publique soit la garante de cette formation des citoyens. Mais en même temps, ce qui a fait progresser les choses, c'est bien des actions associatives. C'est bien parce que les gens ont fait des ciné-clubs en milieu rural, qu'ont fait des matchs de foot en milieu rural, que progressivement les gens se sont dit, pour jouer au foot, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes convictions, d'avoir la même religion, et qu'on peut marquer un but en étant différent. Mais je crois que c'est ce qu'il faut qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que, retrouvons ce problème, c'est que beaucoup de nos quartiers se sont aujourd'hui largement ghettoisés, et donc cette vie associative, elle est souvent un peu communautaire, et donc trouvons les forme pour que les gens aient envie de construire des choses ensemble, d'avoir des valeurs partagées, parce que si la laïcité doit préserver la diversité culturelle, elle doit aussi créer les conditions du rassemblement, et donc, mais le rassemblement, véritablement rassemblement, pas une imposition de gens de se rassembler, et donc pour ça, de préserver les identités, en même temps de créer les conditions de construire des valeurs partagées.
Alors, et l'école, doit-on et peut-on parler de laïcité à l'école ?
On doit parler de laïcité à l'école, mais on doit surtout la faire vivre par des actions. Il me semble que toute une série de choses vont dans le bon sens. La charte de la laïcité à l'école, si elle ne reste pas simplement sur les murs, mais qu'elle pénètre dans la classe, je pense qu'on ira dans le bon sens.
Bon, merci Pierre, merci d'avoir participé à cette émission, de nous
merci
avoir fait partager tes connaissances. J'espère que nous aurons éclairé un peu plus nos auditeurs sur ces notions de laïcité. Bien sûr, on pourrait débattre beaucoup plus longtemps. On est frustré d'être obligé d'arrêter là. Mais ce sera autre part, dans d'autres conditions, que nous poursuivrons ces entretiens et ces débats sur la laïcité. On se retrouve le mois prochain. C'était Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Urgence pour les droits. Urgence pour les libertés, une émission que vous pourrez réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous et nous nous retrouvons fin novembre avec la Ligue des droits de l'homme. Défendons au quotidien les droits, les libertés, la solidarité et refusons le racisme et l'exclusion.
Il y a des hauts, des bas, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts,
il y a des hauts, des hauts,
et la France d'en bas, et la France d'en haut, celle dit des bourgeois, celle dit des prolos, il y a les petits fils à papa. Y'a la France moyenne, de Brest à Cayenne, y'a les sans-papiers, les sans-sous, les sans-sus, les sans-pitié. Y'a les femmes seules et les prisonniers, y'a les enfants. t'ai parlé de tout ça. Quand tout ça se passe ici bas, où il y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, il y a des hauts, des hauts, de drôles de débats et de la démago, des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et il t'a usé. Pierre comme un paquebot, digne comme un voilier. Y'a la chance, la loose et la voix.